Par actualité. Bonjour, ici Clotilde Saye en votre compagnie en ce lundi 3 avril pour vous présenter les paractualités du jour avec ces titres depuis hier. C'est parti, le mois de l'autisme puisque nous sommes en avril. Aujourd'hui, une entrevue avec Stéphanie Levasseur, conseillère en accessibilité du Mouvement des Jardins pour parler du premier hackathon qui s'est déroulé en fin de semaine à Radio-Canada. Et nous évoquerons le comité organisateur du mois de l'autisme qui dévoile la programmation des actions et activités qui se dérouleront au centre du Québec durant tout ce mois. Ressources encore insuffisantes pour les autistes d'âge adulte. Du coup, des parents ont décidé de prendre les choses en main dans la région de Québec. Entretien encore avec Catherine Chevrette, présidente de la Fondation Justine et Florence, qui nous présentera cet organisme et sa campagne. Également, l'Alberta veut former plus de chiens d'assistance et il s'appelle Moreno, il est paraplégique. Il a remporté les élections présidentielles en Équateur. Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur le trouble du spectre de l'autisme. Il faut remonter aux années 70 pour trouver une trace du premier mois de l'autisme. Selon la Autism Society dans le Maryland, c'est à cette période qu'est née aux États-Unis la première édition du mois de sensibilisation. Le mois d'avril est resté depuis ce temps le mois de l'autisme aux États-Unis. Au Canada, c'est octobre qui a été choisi comme mois de sensibilisation à l'autisme. Pourquoi octobre alors qu'on vient de nous dire que c'est le mois d'avril? Mais ce n'est pas grave. Le Québec, quant à lui, n'a pas suivi ce courant, voilà, et a conservé le mois d'avril essentiellement parce qu'au mois d'octobre est le mois de collecte de fonds de l'organisme Centraide et que les associations régionales n'auraient pas pu organiser des levées de fonds en même temps. En décembre 83, la première semaine de l'autisme est mise sur pied par la Fédération québécoise de l'autisme, qui s'appelait alors la Société québécoise de l'autisme. Elle se transforme dès avril 1984 en mois de l'autisme. Le 2 avril, donc, c'était la journée mondiale de la sensibilisation. Depuis 2007, ce 2 avril a été déclaré journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme par l'Organisation des Nations Unies. Alors, faites briller le Québec en bleu, suivant le mouvement international Light Up, Light It Up Blue, initié par Autism Speaks. Le Québec illumine en bleu ses monuments célèbres et ses habitants se vêtissent de bleu afin de sensibiliser la population au sujet de l'autisme. Alors pourquoi le bleu? Eh bien parce que c'est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus, l'autisme étant presque 5 fois plus fréquent chez les garçons, un garçon sur 43 que chez les filles, une fille sur 189, le bleu symbolise la prévalence de l'autisme chez les garçons. Alors que pouvez-vous faire? Eh bien informez-vous d'abord, consultez le site internet de la fondation, la FGA, c'est la Fédération, voilà, la FQA, la Fédération québécoise de l'autisme. Vous pouvez consulter leur site internet pour en savoir plus sur ce trouble, ses causes, ses traitements et ses activités. Vous pouvez aussi lire les témoignages des personnes autistes, de leurs parents, les amis, les professionnels et surtout rester ouvert d'esprit. Vous pouvez également vous inscrire sur la page Facebook de la FCA, je vais finir par la voir, et FQA, ce sera encore mieux. Et vous pouvez partager les histoires, les articles et les recherches qui vous inspirent. Et puis surtout, il aurait fallu porter du bleu hier, le 2 avril. Alors, vous pouvez aussi donner du temps à cette association régionale en devenant bénévole. Et vous pouvez faire un don à toutes les associations que vous connaissez ou encore à la Fédération. Nous en avions parlé avec elle lorsqu'elle est venue nous voir il y a maintenant quelques semaines. C'est Madame Stéphanie Levasseur. Bonjour Madame Levasseur.
Bonjour Madame Sey.
Ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, très bien, je vous remercie. Stéphanie Levasseur, vous êtes conseillère en accessibilité au mouvement Desjardins. Et à ce moment-là, quand vous étiez venue, vous nous aviez parlé d'un hackathon qui avait lieu à Radio-Canada en fin de semaine dernière. Je voudrais d'abord que vous nous rappeliez ce qu'est un hackathon, s'il vous plaît.
Mais en fait, un hackathon, c'est un marathon de programmation qui se déroule toujours habituellement dans un court laps de temps, par exemple un week-end. D'ailleurs, celui de Radio-Canada était justement du vendredi au dimanche. Et il y a des petites équipes de 4 ou 5 personnes qui sont créées pour créer des solutions qui vont répondre à des besoins réels. Et habituellement, on va aussi avoir des thématiques qui vont être proposées, des critères, évidemment, selon le hackathon, l'organisation qui va l'organiser.
Alors, quand on parle de sujets un peu plus spécialisés, j'imagine que le milieu du handicap a été... la problématique du milieu du handicap a été soulevée dans le cadre de ce hackathon, Madame Levasseur?
Oui, ben en fait, à Radio-Canada, l'accessibilité a une grande importance pour l'équipe des médias numériques de Radio-Canada. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais ravie de me joindre comme juge pour l'événement. Un événement qui est toujours plein d'effervescence et avec une énergie hyper stimulante également. On a toujours l'opportunité de se faire présenter des solutions innovantes, originales et, dans ce cas-ci, accessibles en plus. Donc, c'était vraiment bien pour ça.
Bon, alors, quand vous parlez, vous, Mme Levasseur, d'accessibilité, vous pensez à quel type de handicap et quelles sont les solutions qui ont été soulevées?
Ben en fait, l'accessibilité numérique, c'est pour tous les types de handicap, donc les personnes qui sont aveugles, qui utilisent un lecteur d'écran, les malvoyants, les personnes qui ont des problèmes moteurs, les personnes qui ont des problèmes cognitifs et auditifs également. En fait, les trois équipes qui ont remporté les prix ont tous proposé des solutions innovantes, originales, très intéressantes, mais étaient toutes aussi très fortes au niveau du pointage en accessibilité.
Ah, d'accord.
Le grand prix, ce sont les apprentis sourciers qui ont créé un engin de recherche qui pourrait être très utile d'ailleurs pour votre station, qui permet aux auditeurs de rechercher un contenu audio. Des fois, on écoute une émission comme la vôtre et on a oublié le nom de l'animateur ou de l'animatrice et le nom de l'émission, puis avec les mots-clés, on pourrait retrouver l'extrait audio en question. Donc, ça, c'était pour le premier prix. Le deuxième prix, c'est Info Locaux. C'est un prix qui a été remis par la Caisse populaire du quartier latin. C'est un agent conversationnel qu'on appelle un chatbot qui permet d'obtenir de l'information en direct. On parle ici d'intelligence artificielle qui se raffine au fil du temps, qui permet d'échanger, d'avoir accès à de l'information. Et on peut même paramétrer l'outil pour qu'il s'adapte au style de programme. Par exemple, un programme comme La soirée est encore jeune qui est plus humoristique, mais on pourrait adapter le propos pour le type d'émission. Et le prix de la Société de transport de Montréal, c'est le projet Tempo qui permettait, selon les intérêts de l'internaute et du temps disponible, par exemple, je suis 10 minutes dans le train, de se faire proposer des nouvelles audio, vidéo ou audio, selon le temps et l'intérêt. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont même eu le temps d'intégrer un outil pour grossir le texte et la polarité inversée également dans leur solution.
OK,
donc,
d'accord.
C'est vraiment bien, oui.
D'accord. Donc, parce que moi, je m'inquiétais un petit peu parce que je me disais accessibilité, finalement, numérique. Est-ce qu'on parle de l'accessibilité numérique at large, si vous me permettez cet anglicisme, où est-ce qu'on a visé, est-ce qu'il y avait certains groupes qui visaient directement une meilleure accessibilité pour les personnes qui sont parfois un petit peu oubliées par les sites web notamment?
En fait, non, c'était d'intégrer la société at large, comme vous dites, c'est-à-dire donc d'appliquer le standard d'accessibilité du W3C, le Web Content Accessibility Guidelines. C'était le requis là pour d'ailleurs les solutions ont été testées avant que moi, avant que les solutions soient présentées au juge, ce qu'on appelle le pitch fait par les équipes.
Oui.
Donc, il y a eu un audit avec l'outil Wave pour valider le code source notamment.
D'accord.
Et les contrastes de couleurs. Donc, c'était vraiment l'accessibilité pour les clientèles.
C'est ça, exactement. Pour rendre accessible, là, je veux dire, vous avez inclus absolument tout le monde, quoi.
Mm-hmm. Oui,
d'accord. Et puis, encore une fois, on se disait que ça prend des citoyens pour s'investir, hein, parce que ce sont des citoyens qui sont venus. Je veux dire, ce ne sont pas des spécialistes, hein, qui se sont formés en groupe. Est-ce que je me trompe?
Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est que les équipes étaient composées à la fois d'employés de Radio-Canada qui étaient déjà sensibilisés à l'accessibilité ou pas, mm-hmm. ou moins, et de personnes de l'extérieur. Donc, c'est une excellente occasion, opportunité de sensibiliser des gens qui ne connaissent pas l'accessibilité, mm-hmm. et d'en faire des ambassadeurs qui vont retourner dans leurs organisations par la suite, de dire « Hey, en passant, c'est pas si compliqué, il suffit de faire ça, et on va s'assurer que les clientèles de l'accessibilité puissent utiliser aussi nos mm-hmm. solutions numériques. »
D'accord. Ben, écoutez, mm-hmm. mais, donc finalement, vous êtes contente? C'est un premier très beau bilan, alors?
Absolument. Puis normalement, il devrait avoir un autre hackathon et ça me fera plaisir de participer si j'ai la chance d'être invitée de nouveau comme juge.
Comme juge, hein?
Oui.
Bon. Ben, écoutez, merci beaucoup, Madame Levasseur. On vous avait proposé de revenir à l'émission pour nous parler de ce hackathon-là. Ben, on vous remercie de l'avoir fait, d'avoir tenu parole.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Merci vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, avril, mois de l'autisme, ce sont quelques mots que vous allez entendre beaucoup au cours de ce mois sur Canal M. Et le comité organisateur du mois de l'autisme a dévoilé la programmation des actions et activités qui se dérouleront notamment au centre du Québec durant tout le mois d'avril. Les multiples visages de l'autisme est le thème retenu à la grandeur du Québec pour 2017. Selon Marie-Ève Lavoie, coordonnatrice d'autisme Centre du Québec, ce thème est très bien choisi. Elle souligne que bien que le nombre de diagnostics soit en hausse, plusieurs mythes et réalités en lien avec l'autisme perdurent et nuisent à l'intégration sociale et au développement du plein potentiel des personnes ayant un TSA. Par le biais de la sensibilisation, nous souhaitons amener les gens à faire preuve de plus de respect, de compréhension et donc d'ouverture d'esprit face aux réalités vécues par les personnes autistes et leurs familles. Le mois d'avril sera un mois exceptionnel, un geste à la fois. Nous parviendrons à construire une société plus respectueuse des forces et des difficultés de chacun, commente Karine Gay, intervenante communautaire chez Autisme Centre du Québec et coordonnatrice du comité organisateur du mois de l'autisme au Centre du Québec. Madame Gay souligne que cette année, de nombreux partenaires ont répondu à l'invitation de s'impliquer activement pour mettre en place des activités visant à sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la cause. Madame Gay mentionne aussi que le comité organisateur du Centre du Québec a voulu ajouter sa couleur au matériel de sensibilisation en lançant la campagne « Autistes, héros du quotidien ». Les super-pouvoirs des personnes ayant un TSA sont variés. Ces forces découlent de leur façon unique de percevoir, de voir et de comprendre le monde. Elles ont des intérêts restreints pour des domaines bien précis et ont des connaissances riches en lien avec ces intérêts, ce qui en épate plusieurs. Quand on leur donne la possibilité d'exploiter leur plein potentiel, les personnes vivant avec un TSA peuvent littéralement soulever des montagnes et lorsqu'on leur reconnaît leur force, on leur donne des ailes. Comme tous les héros, les personnes ayant un TSA ont besoin d'alliés aux talents extraordinaires dans l'exécution de leur mission quotidienne. La famille, les alliés les plus proches, les plus présents et les plus précieux, ainsi que tous les intervenants, enseignants, professionnels, éducateurs, ont un apport essentiel. Alors, soyez des citoyens bien informés, devenez sympathisants à la cause de l'autisme et joignez-vous, pourquoi pas, au mouvement de solidarité nationale en devenant des alliés pour tous les super-héros ayant un TSA, puisque vous le savez, chaque geste compte. Parlant d'autisme, les ressources sont encore insuffisantes pour les autistes d'âge adulte. Alors, des parents ont décidé de prendre les choses en main et d'ouvrir une première résidence spécialisée dans la région de Québec peut-on lire sur le site de Radio-Canada. Charles Lapointe, 20 ans, est atteint d'un trouble grave du spectre de l'autisme. Sa maman, Marie-Josée Lapointe, dénonce le manque de ressources en hébergement dans le secteur public qui sont, selon elle, mal adaptés aux besoins des autistes. Tout est axé sur la sécurité et les installations sont faites pour les déficiences intellectuelles. Mais les autistes peuvent être quand même autonomes si on les encadre bien, dit-elle. Alors, avec d'autres parents, Mme Lapointe a décidé de fonder la première résidence spécialisée pour autistes de la région de Québec. Ça s'appellera l'Espace Vie TSA, qui sera bâti au coût de 3,5 millions et qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2019. Le groupe de parents en charge du projet espère obtenir une part de l'enveloppe de 29 millions annoncée en mars avec le nouveau plan d'action sur l'autisme du gouvernement. Cet argent-là va beaucoup nous aider, mais après 21 ans, les besoins sont criants. Il faudrait clairement plus d'argent, croit Lily Plourde, une maman qui accueille quand même bien cet effort du gouvernement. Je voudrais maintenant m'entretenir avec Mme Chevrette, Catherine Chevrette, qui est présidente de la Fondation Justine et Florence. Elle va nous présenter un peu mieux cette fondation et surtout, on va parler de la campagne qui se lance en ce moment pour l'aider. Bonjour Mme Chevrette.
Bonjour Madame.
Alors, la Fondation Justine et Florence, vous nous rappelez ce qu'est exactement cette fondation, quel est son objectif et sa mission?
Alors, la Fondation Justine et Florence a vu le jour en 2012. J'étais assise avec une autre maman qui a un enfant autiste et on constatait les problématiques que nous vivions dans le cadre de l'école, donc les manques, les besoins criants que les éducateurs et les professeurs avaient. Donc, on s'est retroussé les manches et on a décidé de créer la fondation et on lui a donné comme objectif de promouvoir, faciliter et contribuer au développement social et académique des enfants et adolescents atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Souvent dans les classes, bon, on se dédie là, principalement aux classes TSA qu'on appelle, donc pas les autistes qui sont intégrés en classe régulière, mais vraiment les classes spécialisées. On a rencontré des équipes de professionnels, leur demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin. La réponse était tout. Ils avaient besoin de tout. Ils avaient besoin de temps, ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de matériel. Mais ce que tous nous ont dit, c'est qu'ils avaient besoin de tablettes électroniques.
Et ça m'a surprise un petit peu qu'on pense d'abord à cet objet-là, mais vous allez me l'expliquer, Madame Chevrette.
Pourquoi la tablette électronique, pour ne pas la nommer le iPad? Ben, on sait que beaucoup d'enfants atteints de ce trouble ont des difficultés de motricité fine, ont des difficultés de communication, bien entendu. Et donc, la tablette se veut un outil privilégié. Je donne un exemple. Moi, ma fille, elle avait beaucoup de difficultés à tenir un crayon quand elle était petite. Donc, se concentrer pour recevoir une instruction du professeur, l'appliquer. En plus, il faut se concentrer à tenir le crayon et, bon, avec la tablette et un doigt suffit pour écrire sur une tablette. Et c'est des enfants quand même de cette génération-là.
Absolument.
C'est fou comment on a réussi à rendre l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques plus convivial et plus agréable pour Justine et pour Florence, la fille de Mme Cheng avec qui je partage. Donc, les professeurs, ils n'en avaient pas. Quand on a débuté notre première campagne, là, les premiers balbutiements en 2013, il n'y avait même pas d'Internet dans les classes. Donc, on fournissait même les bornes, etc. Donc, on a mis plusieurs activités en marche. On a sollicité des gens d'affaires avec qui on partage notre quotidien. Et au cours des dernières années, on a quand même amassé là, au-delà de 200 000 $.
Ah oui!
Oui, je vous dirais, là, avec la participation là, de gens, là, je pense à la famille Chenaille, par exemple, qui nous a beaucoup, beaucoup soutenus. Les gens qui font partie du conseil d'administration, chez nous, quand on dit siéger sur le conseil d'administration, ça ne se veut pas une réunion où on prend un apéro et on discute. Non, on met la main à la pâte et on organise les activités nous-mêmes. L'année passée, on a fait notre premier défi cycliste au nom de la Fondation le 27 août. On reprend la même activité le 26 août. Alors, j'invite les gens à se rendre sur notre site pour s'inscrire et venir pédaler avec nous. Mais pour une première activité l'année passée, on a ramassé quand même 46 000 $.
Ah oui, donc ça augmente. Alors,
ça
on peut
augmente.
Penser
non,
que...
c'est ça. Il y a toujours la place. Et je me disais, bon, ça va s'essouffler, ce projet-là des tablettes. Dernièrement, on a fait un focus group avec des ergothérapeutes, des psychologues, des professeurs. Et c'est encore ça qui est le plus demandé. J'avais une liste, moi, d'écoles avec qui on n'avait pas distribué encore les tablettes. Bon, hein, on sait, hein, collaborer avec les écoles, les professeurs, là, ils ont le cœur gros comme la terre. C'est des gens dévoués, dédiés, mais ils ont toute la bureaucratie autour qui fait en sorte que parfois c'est difficile de distribuer.
Absolument.
Et j'ai rappelé des écoles pour qui on avait eu des demandes et j'ai la bonne nouvelle d'apprendre aux gens que en avril cette année, donc à compter de cette semaine, je vais distribuer 100 tablettes à travers le Québec.
Wow!
Donc, 54 classes dédiées aux troubles du spectre de l'autisme, primaires et secondaires, recevront leurs tablettes au cours du mois de l'autisme.
Bon, et ça vous en prendrait combien en tout? Oui, je sais.
On pense qu'on peut faire un calcul rapide. Là. Il y a à peu près 8000 enfants là, en classe spécialisée au Québec. Mettons qu'ils sont en moyenne 6 par classe. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de classes.
Oui, ça fait beaucoup de tablettes aussi.
Ça fait beaucoup de tablettes. On compte 2 tablettes par classe. Parce qu'avant, on disait une tablette par enfant, puis les profs nous ont dit non, on n'a pas le temps de gérer une tablette par enfant, là, ça va être un peu complexe.
Ah oui, ben oui, c'est ça.
Donc, on fait autre chose que de la tablette dans le cadre de l'activité quotidienne.
C'est sûr.
Mais l'objectif, là, ce serait de distribuer au-delà de 300 tablettes.
Bon.
Ce qui est surprenant, c'est qu'au fil du temps, on se dit, ben à un moment donné, ils vont nous dire, les commissions scolaires nous les ont données, nos tablettes. On n'a plus besoin de vous.
Et non. Ah oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces classes-là? C'est une grande question.
Oui, c'est une grande question. Voilà. Moi, j'en ai une pour vous, madame, une grande question. Je vous avouerai qu'autour de moi, on commence à bien savoir ce qu'est l'autisme parce que, grâce à Dieu, on en parle de plus en plus. Et donc, on est de plus en plus sensibilisés, même si on n'a pas personne directement atteint près de... Mais moi, pour moi, la tablette, c'est l'objet par excellence de la coupure avec le monde. C'est-à-dire que ces enfants-là, si je ne m'abuse, souvent se coupent énormément du monde. Est-ce qu'on n'a pas peur avec la tablette de contribuer encore plus à créer cette coupure-là?
Mais moi, je poserais la même question à tous les parents du Québec.
Ah oui, hein?
Faut user des mêmes techniques et tactiques qu'on a avec nos enfants neurotypiques. Moi, j'ai 2 filles. Ma plus jeune, qui n'est pas autiste, si je la laisse faire, c'est certain qu'elle
Elle est constamment là-dessus. Oui.
Nous-mêmes, des fois, il faut se dire, OK, là, ça suffit, là, je la lâche, la tablette. Donc, il faut quand même émettre certains contrôles.
D'accord.
Et c'est pour ça que 2 par classe, c'est suffisant.
D'accord.
À la maison, ma fille va utiliser la tablette dans le cadre pour, faire ses devoirs, faire de la lecture, mais on va lui permettre de l'utiliser comme activité récompense.
Oui, je comprends.
Mais
ah oui, d'accord.
Un frein,
bien sûr.
Un temps et dire, là, c'est terminé.
D'accord. Bon.
Le but n'est pas qu'il fasse que de la tablette.
Non.
Le but, c'est de faciliter les apprentissages
académiques.
Et avec une tablette, c'est pas un collant dans un cahier qui, eux, ils s'en foutent complètement, mais
non,
il va avoir une activité quelconque qui va apparaître suite à l'application ou à la réussite.
Vous avez très bien répondu à ma question, mais d'ailleurs, je me doutais de la réponse et je savais très, très bien que c'était histoire de connaître votre avis à vous.
Oui.
Vous qui êtes, on le rappelle, la maman. Hein, vous, c'est la petite Justine?
Moi, c'est maintenant la grande Justine.
La grande Justine, hein?
Une adolescente de 14 ans, oui.
Bon, d'accord. Écoutez, Madame Chevrette, bravo pour tout ça. Bravo pour cette initiative. Et merci de nous en avoir parlé aujourd'hui sur les ondes de Canal M.
J'invite les gens à visiter notre site web.
Oui, rappelez, c'est donc simplement Fondation Justine et Florence.
Tout simplement unetabletteunsourire.com.
D'accord, unetabletteunsourire.com. Merci, Madame Chevrette.
Merci, bonne journée, au revoir.
L'Alberta veut former plus de chiens d'assistance, peut-on lire sur le site de Radio-Canada, ici Radio-Canada, Alberta, pardon. La première ministre Rachel Notley a rencontré des gens qui avaient vraiment un grand besoin d'aide de la part de ces canidés. D'ailleurs, on voit une photo sur ce papier-là, où on nous dit que le gouvernement albertain met en place de nouvelles normes provinciales pour élargir le service des chiens d'assistance aux personnes handicapées ou souffrant de troubles de stress post-traumatique. L'objectif est notamment que plus d'écoles puissent dresser ces chiens, car la demande ne cesse d'augmenter. Il s'agit d'un projet pilote auquel participent 6 organisations offrant des services de chiens d'assistance. Celles-ci toucheront une enveloppe de 250 000 $ pour créer des normes provinciales basées sur les normes internationales établies par l'organisme représentant les dresseurs à l'échelle du globe. Assistance Dog International. Les organisations élaboreront ainsi une liste des écoles de formation pour chiens d'assistance qualifiées en Alberta. Le projet pilote a débuté le 1er avril, il s'achèvera fin août. Selon Toby Ramsden, président de l'association caritative Dogs with Rings, qui participe au projet pilote, la demande augmente et il est difficile de suivre la cadence pour les organismes. Dans notre association, nous avons une 60aine de personnes qui attendent depuis environ 3 ans pour avoir un chien qui va les aider dans leur vie quotidienne. Ce n'est pas juste, estime-t-il. La province veut également que les écoles qui feront partie de la liste qualifiée de l'Alberta suivent une formation de l'École nationale Service Dogs qui forme les animaux pour aider les personnes souffrant de troubles du stress post-traumatique. Il est paraplégique, il a remporté les élections présidentielles en Équateur, victoire contestée du socialiste Moreno. Il s'appelle Lénine Moreno, il a donc remporté l'élection présidentielle de dimanche qui met fin à l'ère de Rafael Correa selon des résultats quasi définitifs du second tour, dénoncés toutefois par son adversaire, l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso. Nous voulons un gouvernement qui commence par un appel à tous pour un dialogue fraternel. La main est tendue à qui veut la saisir, a déclaré Lénine Moreno, qui succédera le 24 mai à son charismatique mais polémique mentor au pouvoir depuis 10 ans. Jugé affable et plus conciliant, le candidat d'Alliance País, l'AP, Patria Altiva Soberana, qui est patrie altière et souveraine, c'est un peu l'acronyme jouant sur le mot de país, de pays en espagnol, l'a remporté avec un peu plus de 51% des voix. Cet homme de 64 ans est paraplégique depuis une agression à main armée subie en 1998. Il va ainsi devenir le premier président équatorien à se déplacer en fauteuil roulant. Les ateliers formation et activités du Campagnol, groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale, permettent aux gens de parler de leur expérience de vie pour ainsi trouver leurs propres solutions et ce, sans jugement. On vous convie à une jasette le mercredi 5 avril à 13h. À 13h, ce sera plutôt une activité qualifiée de ludique pour le 6 avril et le vendredi 7 avril, on vous convie à une cabane à sucre. Le Campagnol est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h. On peut s'informer sur le site internet suivant, lecampagnol en un seul mot, weebly.com. Voilà, c'est ainsi que s'achèvent les paractualités du jour en ce 3 avril 2017. C'était Clotilde Saï qui remercie son équipe et qui vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h30.